À voix nue, Christophe Onodibio.
Salman Rushdie, écrivain.
Premier épisode, une enfance indienne. Mars 2024, New York, un appartement de Manhattan bourré de livres, de photos, ciel bleu dégagé par la fenêtre où pointent les gratte-ciel. Nous y sommes dans cet appartement de Manhattan avec l'un des plus grands écrivains de notre temps, l'un de ses derniers conteurs aussi, quelqu'un pour qui la littérature n'est pas un mot vain, mais une véritable arme pour comprendre, pour raconter, pour interroger la complexité du réel, de la vie, de la mort, de l'amour, des croyances, des mythes, des rapports de pouvoir. Salman Rushdie, l'auteur fêté internationalement par le Booker Prize pour son roman « Les enfants de minuit » en 1981, puis livré aux assassins par la terrible fatwa décrétée contre lui par l'ayatollah Khomeini le 14 février 1989, quelques mois après la publication d'un autre roman, « Les versets sataniques », a failli mourir poignardé le 12 août 2022, frappé de dizaines de coups de couteau durant 27 secondes, au cou, à la main, à la poitrine, au visage, dans l'œil, sur l'estrade d'un centre culturel à Shotoka, dans l'ouest de l'état de New York, où il s'apprêtait à donner une conférence. Une violente et lâche agression due à un fanatique islamiste de 24 ans, admirateur du régime iranien, qui rappelait brutalement à tout le monde, alors que Rushdie lui-même l'a pensé rangé dans son fourreau, qu'une épée de Damoclès planait toujours sur l'écrivain et qu'on peut mourir d'écrire. Mais Salman Rushdie, écrivain britannique d'origine indienne, devenu citoyen américain, né à Bombay en 1947, en Inde, n'est pas qu'un symbole. C'est un formidable passeur de littérature et l'auteur d'une œuvre immense, hors norme, nourrie de l'observation du monde et des légendes qui ont marqué son enfance. Ses romans, Les enfants de minuit, Les versets sataniques, Haroun ou la mère des histoires, ses mémoires, Joseph Anton, Le couteau, réflexion suite à une tentative d'assassinat, son dernier livre, ne cesse de porter le même message essentiel. Les mots sont les seuls vainqueurs. Comme le disait la dernière phrase de son roman « La cité de la victoire », terminée et corrigée juste avant la terrible agression au couteau du 12 août 2022. Bonjour Salman Rushdie.
Bonjour.
Ces mots, ça aurait pu être vos derniers mots écrits ?
Almost were my last words, yes.
C'était pratiquement mes derniers mots, oui.
I think it's not in fact me who's saying it.
En fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le personnage du livre. La poétesse aveugle qui est l'héroïne du livre le dit.
But I think what she means is that, you know,
ce qu'elle veut dire, c'est que les écrivains n'ont pas d'armée. Les écrivains n'ont pas d'armes ou de pouvoir de ce genre.
But we have the power of writing the story.
Mais nous avons le pouvoir d'écrire l'histoire. En fin de compte, ce qui reste de nous, c'est l'histoire. Si nous pensons aujourd'hui à la campagne de Napoléon en Russie, nous pensons à guerre et paix. Ça appartient à Tolstoï. C'est ce qu'elle voulait dire, je pense. Les rois vont, viennent, les généraux, les dictateurs vont et viennent. À la fin, ce sont les mots qui restent.
Mais vous avez pensé à ce moment que ça pouvait être vos derniers mots écrits, les derniers mots publiés de Salman Rushdie ?
Non,
je ne pense pas. Je me suis dit qu'il y aurait un autre livre un jour ou l'autre. Je n'aime pas ne pas écrire de livre. Tous ceux qui ont le malheur de vivre avec moi vous le diront. Je suis beaucoup plus heureux quand j'ai un livre à écrire.
Salman Rushdie, comment vous le regardez, ce jour terrible qui a failli vous coûter la vie et qui vous a coûté une partie de la vue ?
J'y pense comme le pire jour de ma vie. Le jour où ma vie a été la plus proche de sa fin, depuis qu'elle a commencé. C'est difficile d'être si proche de la mort.
Nos auditrices et nos auditeurs ne le voient pas, mais c'est vrai que avec le vert noir que vous portez à droite hein, sur vos lunettes, vous ressemblez en effet, comme le dit votre ami Roberto Saviano, lui aussi menacé de mort mais par la mafia, un peu à un capitaine pirate. Vous avez réussi peu à peu à vous habituer justement à cet œil mort.
Yeah, I've got used. Yes, I've got.
Oui, je me suis plus ou moins habitué à la perte de l'œil. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'il faut réapprendre beaucoup de choses sur la façon dont on fonctionne dans le monde, des choses auxquelles on est habitué en ayant une multiplicité de perspectives avec deux yeux.
Nous aurons l'occasion d'en reparler avec vous, Salman Rushdie, de votre guérison miraculeuse, de ces années clandestines pendant la fatwa, de l'abîme qui s'est ouvert sous vos pieds à la publication des versets sataniques, de votre renaissance aux États-Unis, de vos combats pour la liberté, par les livres, par vos engagements successifs. On va parler de vos cinq vies, comme nous avons décidé d'intituler cette voix nue qui vous est consacrée. Mais je voudrais vous proposer de remonter le temps et de commencer par la première vie, fondatrice, en évoquant cette enfance à Bombay. J'étais très marqué par ces photos qu'il y a sur la cheminée. Il y a une photo particulière très émouvante où on voit un petit garçon, je ne sais pas quel âge il a, qui a ouvert un livre, le livre de Peter Pan, et qui le lit à deux petites filles. C'est vous ce petit garçon ?
Oui. C'est moi et mes sœurs. Les filles sont mes sœurs. Pour nous tous, c'est l'image préférée de notre enfance. Et nous l'avons tous chez nous. C'est une sorte de photo magique prise par mon père, qui s'est avéré être un très bon photographe amateur. Il a pris la photo, il avait un magnifique Rolleiflex, et il prenait des photos de famille, mais plusieurs d'entre elles sont très évocatrices. Celle-là surtout, je suis assis, non pas le livre original de Peter Pan, mais la version Walt Disney. Et mes sœurs sont absorbées. Il semble que c'est l'image qui évoque le mieux mon enfance.
Elle vous parle, cette histoire de Peter Pan, c'est quand même si c'est la version de Disney, c'est quand même l'histoire d'enfants qui ne veulent pas grandir, du nombre à recoudre sur soi, et de rêver d'aventure pour pouvoir voler.
J'ai toujours aimé ce livre, oui.
I grew up.
Moi, j'ai grandi.
So I'm not like him.
Donc, je ne suis pas comme lui.
Quel genre d'enfant vous étiez, Salman Rushdie ?
J'étais très bien élevé, très bon. Ma sœur la plus âgée, Samine, qui a un an de moins que moi, se décrit comme ma sœur beaucoup plus jeune. Elle était méchante et espiègle. J'étais tout le contraire. Et nous étions très très proches. Elle battait les gens pour moi et je la sortais des ennuis. C'était notre alliance. J'étais curieux. Et j'ai découvert les livres quand j'étais enfant. J'ai découvert les histoires dans les livres. Et j'étais un grand lecteur dès le début.
Vous êtes né, Salman Rushdie, en Inde, à Bombay, l'année de l'indépendance de l'Inde, comme le personnage principal des Enfants de Minuit, le roman qui vous a valu à l'âge de 34 ans le Booker Prize. À quoi ressemblait la vie chez les Rushdie?
Mes parents étaient très aisés. Mon grand-père, le père de mon père, a gagné beaucoup d'argent dans l'industrie textile. Et mon père était le seul enfant. Il a hérité de vraiment beaucoup d'argent. Et il a ensuite passé le reste de sa vie à le perdre. Nous avions une très belle maison. Mon père travaillait pour son propre compte. Il avait un bureau au rez-de-chaussée. Il y allait tous les jours pour faire ce qu'il faisait dans ce bureau. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y faisait, d'ailleurs. Le petit quartier où nous vivions était très joli, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le sud de Bombay. Il y avait là des gens de partout. Donc les enfants parmi lesquels je jouais étaient comme ça, des enfants d'Amérique, d'Angleterre, d'Europe. Pendant un certain temps, mon père a loué le dernier étage de notre maison à une famille libanaise. À un autre moment, il a loué à une famille australienne. C'était un environnement très, on dirait, cosmopolite.
C'était une enfance heureuse ?
Oui. Je me souviens de cette enfance comme d'une enfance heureuse, même si certaines parties n'ont pas été heureuses. C'était difficile pour ma mère, parce que mon père avait pris l'habitude très mauvaise de boire de l'alcool. Il commençait à être souvent ivre le soir. Elle devait essayer d'éloigner cela de nous les enfants.
D'ailleurs, dans Les Enfants de Minuit, il y a ce personnage paternel qui cherche les djinns, D-J-I-2-N, dans le verre de gin.
Yes, voilà. The gin and tonic.
Oui, le gin and tonic.
And he did actually,
en fait, ce n'était
actually,
pas sa boisson à lui. Il était buveur de whisky.
Mais est-ce que... Alors, c'était un, c'est une famille musulmane, laïque. Hein, c'est ça.
Yes, I mean, they were technically Muslim.
Techniquement, ils étaient musulmans.
It was an Indian Muslim family.
C'était une famille indienne musulmane.
I didn't know my grandfather.
Je n'ai pas connu mon grand-père, le père de mon père, parce qu'il était déjà mort avant ma naissance. Mon père a appris, je pense, de lui à être très sceptique à l'égard de la religion et n'en avait vraiment aucune. Ma mère n'en avait pas beaucoup plus. En fait, la seule religion de notre foyer était que nous ne mangions pas de porc.
Et pourtant, votre père était fasciné par l'islam, puisque vous avez révélé dans vos mémoires, dont le titre est Joseph Anton, que Rushdie n'est pas votre vrai nom, en fait. Votre père l'a emprunté à celui qu'on appelle Ibn Rushd, alors en français on dit plutôt Averroès, le grand philosophe, le grand intellectuel de la civilisation islamique du XIIe siècle, qui est le tenant d'un islam rationaliste contre l'islam littéral de son époque, et qui fut d'ailleurs accusé d'hérésie. Pour quelle raison il a fait ça,
votre père?
Écoutez, dans l'ancienne tradition des musulmans indiens, il n'y avait pas de nom de famille fixe. On prenait le prénom de son père comme nom de famille. Le nom de mon père était Anis. Moi, je devais m'appeler donc Salman Anis. Et mon fils s'appellerait quelque chose Salman. Et ainsi de suite. Il n'y avait pas de patronyme fixe. Et puis, le monde moderne est arrivé. Dans le monde moderne, les gens ont des patronymes qui les identifient. Mon père a décidé que nous devrions avoir un nom de famille. Il a choisi parce que c'était un admirateur d'Ibn Rushd, Averroès. D'une certaine manière, c'était une prophétie. Plus j'en apprenais sur ce philosophe, plus je me rendais compte que les choses qui lui étaient arrivées par la suite m'étaient arrivées à moi aussi. Il a également été persécuté, ses travaux ont été interdits, etc. Et il était très en avance sur son temps au XIIe siècle en Espagne. C'était un questionneur. Je pense qu'il se serait défini comme un musulman croyant. C'était un esprit très original. Je pense que mon père a réagi à cela et m'a notamment donné son nom.
Alors, votre père voulait même remettre, c'est ce qu'on lit dans Joseph Anton, en ordre, réarranger le Coran pour le rendre plus clair.
Il y a une chose étrange dans le Coran. C'est que lorsque vous le lisez, parfois, au milieu d'un chapitre, le sujet change. Et puis, plus loin dans le texte, ce sujet est repris. On a parfois l'impression que le texte a été mélangé, que les séquences ont été modifiées par accident. On ne peut plus dire cela aujourd'hui. Mais à un moment donné, mon père a eu l'idée d'essayer de réorganiser le texte pour qu'il ait plus de sens. Il l'a jamais fait.
Il allait plus loin que vous, en fait.
Oui, s'il l'avait fait, Dieu sait ce qui serait passé.
Et votre propre rapport à la religion, donc vous êtes élevé dans cette famille musulmane laïque, vous, ça vous intéresse quand même, ça vous passionne,
dans ma famille, c'était une moitié qui était très pieuse, et l'autre ne l'était pas. Mon grand-père, le père de ma mère, a effectué le pèlerinage à la Mecque. Ses sœurs, il en avait deux, dont l'une n'était pas très croyante, et l'autre très croyante. Donc le sujet était là, tout au long de mon enfance. Je me suis beaucoup intéressé. Je m'y intéresse toujours.
Ça vous intéressait, mais vous n'y croyez pas.
Non. Je n'ai jamais eu de croyance religieuse. Je me souviens qu'à l'âge de 14 ans, je suis allé dans un pensionnat en Angleterre. L'école avait un magasin, on pouvait acheter des casse-croûtes. Et je suis allé m'acheter un sandwich au porc, un sandwich au jambon.
I'd never eaten ham in my life.
Je n'avais jamais mangé de jambon dans ma vie. Et je l'ai mangé. Ce n'était pas un très bon sandwich, mais c'était un acte très radical. Aucun coup de tonnerre, aucun éclair n'est venu me frapper. Et à ce moment-là, j'ai décidé que Dieu n'existait plus. Le sandwich au jambon l'avait prouvé.
Pour vous, qu'est-ce que ça représentait, ces histoires qui étaient racontées dans le Coran ?
Mais comme je vous l'ai dit, j'étais quelqu'un qui aimait les histoires. Je voulais les connaître toutes. L'histoire de la naissance d'une religion, c'est fascinant. De toutes les grandes religions, la naissance de l'islam est la seule qui se déroule dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler l'histoire enregistrée. On dispose des faits, de connaissances.
Votre père se définissait comme athée ?
Oui. Je n'ai jamais posé la question, est-ce qu'il utiliserait le mot athée au sujet de lui-même, mais il était clair qu'il l'était.
Vous, c'est comme ça que vous vous définissez ?
Oui, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est une description facile de qui je suis. Je ne crois pas au Dieu, quel qu'il soit.
Vous ne dites pas agnostique ?
Non.
Non. Je suis assez clair sur ce sujet. Je ne pense pas qu'il y ait un Dieu, quel qu'il soit. On n'est pas agnostique quand on n'est pas sûr.
C'est votre père qui vous parle du Coran. Il vous raconte aussi beaucoup d'histoires, hein, beaucoup de contes, les grandes légendes indiennes. Les mille et une nuits de Scheherazade, c'est votre père qui vous les raconte. C'est particulièrement important pour vous.
Oui. Je crois que c'est une chose merveilleuse d'avoir grandi en Inde avec ces grandes histoires autour de soi. La tradition musulmane, qui est celle des mille et une nuits, et au Cachemire aussi, il y a un recueil d'histoires similaires en sanskrit. Le Kathasarit Sagara, qui signifie l'océan des ruisseaux d'histoire. Et puis il y a le Ramayana et le Mahabharata, puis les fables animalières du Panchatantra. Ce sont d'immenses richesses. Et l'on commence à apprendre la beauté des histoires dès le plus jeune âge. L'un des aspects intéressants des mille et une nuits est qu'il n'y a que très peu de religions. Il y a beaucoup de sexes, beaucoup de pouvoirs, beaucoup de politiciens corrompus et de princes, beaucoup de romances, etc. Mais vraiment très peu de religions, même aujourd'hui. Les musulmans fondamentalistes tentent de l'interdire, parce que ce n'est pas assez pieux.
Il y a une histoire que vous adorez, c'est très mal connu des Français et des Françaises, c'est le Samudra Manthan. Ça, c'est une histoire qui vous a fasciné.
Oui, ça fait partie de la grande légende hindoue, le baratage d'Indra, le grand dieu Indra, dans ce baratage géant. Baratant l'univers, et ce qui en sort, ce sont les constellations, les étoiles, et ces gouttes de nectar tombent des cieux, et si vous pouvez en attraper une sur votre langue, vous devenez immortel. Et quand on est enfant, on ouvre la bouche en regardant l'air.
Et vous avez cru que ça vous était arrivé ou...
Non,
je ne pense pas en avoir jamais eu.
Il y a une librairie aussi qui compte beaucoup à l'époque, qu'on appelle le Reader's Paradise. Elle est où ? Elle est à Bombay ?
Oui, notre maison se trouvait sur une petite colline, une toute petite colline. Et au bas de la colline, là où se trouvait la route principale, il y avait une petite librairie.
Paradis des lecteurs.
C'était mon endroit magique. Je descendais la petite colline. À côté de la librairie, deux portes plus bas, il y avait une très très bonne chocolaterie. La chocolaterie était bien, mais c'est la librairie dont j'étais amoureux.
Et c'est là que vous lisez, vous découvrez aussi les mythes grecs, parce que ça c'est très important aussi dans vos livres.
Oui. J'ai toujours été intéressé par les mythologies de partout, les mythologies nordiques, Odin, Thor, et tout ça, et le grand arbre, le frêne Yggdrasil, le Götterdämmerung. Je pense que l'une des choses que l'on apprend des grands mythes, c'est à quel point ils sont profonds dans un laps de temps très court. Par exemple, lorsque j'écrivais mon roman « La terre sous ses pieds », je pensais au mythe d'Orphée et d'Eurydice. Bon, on peut raconter l'histoire d'Orphée en moins de 100 mots. Et pourtant, elle est si profonde que l'on peut écrire un roman de 500 pages.
really complicated questions.
Il pose des questions vraiment complexes parce que dans cette histoire, c'est comme un triangle. Les points de ce triangle sont l'art, l'amour et la mort. Si vous voulez être optimiste, vous pouvez dire que cette histoire nous apprend que l'amour, avec l'aide de l'art, peut vaincre la mort. Si vous êtes pessimiste, vous pouvez dire que la mort, malgré l'art, éteindra l'amour. Selon la façon dont vous tournez le triangle, il y a une signification différente. Tous les grands mythes sont ainsi. Ils ont cette profondeur que vous pouvez pénétrer et qui peut tant vous apporter.
Vous diriez aujourd'hui, avec le recul, que c'est là, dans ces mythes qu'ils soient, ou ces grandes histoires qu'on vous raconte enfant, qu'est née vraiment la matrice de votre vie d'écrivain, de votre envie d'écrire et de la façon que vous avez si particulière d'écrire des histoires qui posent effectivement des questions très profondes, mais qui sont aussi extrêmement chatoyantes et très magiques aussi.
Je pense que le fait d'avoir été immergé dans ce monde ou ces nombreux mondes pendant mon enfance m'a donné presque tout ce dont j'avais besoin. Et de plus, lorsque j'étais à l'école, j'ai commencé à étudier l'histoire, après l'histoire de la mythologie. Et j'ai obtenu un diplôme universitaire en histoire. Quelque part entre ces deux choses, le conte de fées et l'histoire vraie, l'histoire du monde et l'histoire magique du monde, ces deux choses se rejoignent. J'ai trouvé un moyen de raconter ces deux types d'histoires en même temps.
Il y a une expression pour dire « il était une fois » dans les contes indiens.
Dans les versets sataniques, j'utilise en fait le terme arabe
« kan makan »
qui signifie « il en était ainsi, il n'en était pas ainsi ». Vous dites les deux choses en même temps. C'est vrai, mais c'est un mensonge.
C'est la bonne définition de la littérature.
Exactement. En trois mots, kan yamakan.
Vous avez été aussi très impressionné quand vous étiez petit par les conteurs professionnels du Kerala.
Ma famille est entièrement nord-indienne. Le sud de l'Inde est quasiment un territoire étranger. Au Kerala, je ne parle pas le Malayalam. À Chennai, Madras, je ne parle pas le Tamoul. Mais une des choses qui m'a frappé, c'est la popularité de la tradition des contes oraux. Ces conteurs oraux très célèbres réunissaient un public très nombreux. La façon dont ils racontaient les histoires était fascinante, car ce qu'on nous dit classiquement sur la façon de raconter une histoire, il faut commencer par le début et aller jusqu'à la fin. Mais c'est pas ce qu'ils faisaient. Ils commençaient généralement par une anecdote mythologique, l'un de ces dieux ou un épisode quelconque. Et puis, ils disaient, ça me raconte quelque chose que j'ai lu dans les journaux il y a 2 ou 3 jours. Et ça devenait une anecdote politique sur quelque chose qui se passait en ce moment-là. Puis ils disaient, mais ça me rappelle aussi quelque chose de mon enfance. Et ils racontaient une histoire personnelle. Et puis ils chantaient une petite chanson, faisaient une petite danse. Il y avait 5 choses qui se passaient en même temps. Quelqu'un qui a une vision classique de ces choses dirait que c'est déroutant. Mais en fait, c'est ce qui a maintenu l'intérêt du public. Cette jonglerie magique d'histoire. J'ai trouvé ça très intéressant parce que le conteur oral, tout ce qu'il fait, c'est pour que le public reste assis et écoute. Parce que si le public n'est pas content, il se lève et il s'en va.
Est-ce que vous vous souvenez des premiers textes enfants que vous avez écrit, parce que là, on a parlé de votre boulimie de lecture, mais le Salman Rushdie, le jeune Salman Rushdie qui écrit, il commence par quoi ? C'est quoi ses premiers textes ?
La première chose que je me rappelle avoir écrite, j'étais allé voir le film Le Magicien d'Oz, qui ressemble à bien des égards à un film de Bollywood. J'ai beaucoup aimé ce film, et à mon retour, j'ai écrit une histoire intitulée Par-dessus l'arc-en-ciel. L'histoire n'est pas comme le film. C'est l'histoire d'un garçon comme moi qui marche dans une rue comme une rue de Bombay et qui trouve non pas la fin de l'arc-en-ciel, mais le début de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel s'incurvant et s'éloignant devant lui. Et l'arc-en-ciel avait des marches, ce qui est très utile. Il passe par-dessus l'arc-en-ciel et en le parcourant, il rencontre des créatures magiques. Je m'en souviens pas très bien, mais mon père m'a dit, enfin, je l'ai écrit, et mon père m'a dit, donne-le-moi. Et il a donné à sa secrétaire pour le taper. Il y avait 5 ou 6 pages. Puis il m'a dit, je m'en occupe parce que tu es un enfant, tu vas le perdre. Et c'est lui qui l'a perdu.
Mais il vous encourageait à écrire, votre père. Vos parents voyaient que vous aviez un don pour ça.
Ils aimaient que j'aime lire. Ils aimaient que j'écrive des choses. J'écrivais des petits bouts de poésie. J'écrivais des bouts rimés humoristiques. J'étais un enfant qui s'intéressait au monde des mots. Et j'ai grandi en restant cette personne.
Est-ce que vous ressentez aujourd'hui une nostalgie par rapport à cette enfance ? J'ai lu que vous disiez, hein, vous l'avez dit dans un de vos livres, que vous avez parfois l'impression d'avoir vécu dans une autre époque où les débats étaient libres, où les conversations, on pouvait se disputer, on pouvait débattre, et que cette époque n'est plus. Est-ce que vous ressentez de la nostalgie pour cette Inde de votre enfance ?
I think, you know...
Oui.
Yes, I do feel that.
Je pense que le monde était meilleur à l'époque. L'Inde était certainement différente. Elle sortait d'une terrible catastrophe, à savoir les massacres qui ont eu lieu après l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Des millions de personnes ont été tuées, des hindous tués par des musulmans, des musulmans tués par des hindous. Nous ne savons même pas combien de personnes sont mortes, mais il se peut très bien qu'il y en ait plus de 2 millions. J'ai grandi non seulement au moment de l'indépendance, mais aussi au lendemain de la calamité. J'ai grandi à Bombay. Et les gens étaient fiers de ce fait que, dans cette ville, il ne s'est presque rien passé. Les choses étaient généralement paisibles. Et les habitants de cette ville, comme moi et ma famille, étaient fiers de cela, d'une ville où les gens parvenaient à s'entendre. Si je pense à la vie de mes parents, ils avaient des amis de toutes les religions possibles et imaginables, des communistes, des gens du cinéma, un très large éventail de personnes. Et je me souviens de mon père et de ma mère assis dans le jardin le soir avec leurs amis, parlant de tout, discutant, se disputant sur tout, y compris sur l'existence de Dieu. Personne ne pensait que ça posait un problème. Et ça, je crois que ça m'a marqué. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la liberté d'expression. Les gens se sentaient libres de parler. Ils ne pensaient pas qu'il y avait un quelconque risque. Et c'est plus le cas aujourd'hui.
Alors peut-être que vous aviez deviné ce qu'allait devenir l'Inde, puisque vous la quittez. Au tout début des années 60, vous avez 13 ans et ce départ va faire de vous un écrivain. Et c'est ce que nous verrons dans le second épisode de cette À Voix Nue. Merci Salman Rushdie. On se retrouve demain. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral. Prise de son Sébastien Royer, traduction Michel Zlotowski, réalisation Angélique Thibault, une série de Christophe Onodibio avec le concours du magazine Le Point, à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'application Radio France. Thank you.